Nous allons commencer les travaux et j'invite Georges Niva, Université de Genève, avec l'exposé « Отхождение по мукам до Красного колеса, первенство февраля или октября ».
Merci aux organisateurs et à cette université, à cet institut. C'est très agréable de se retrouver ici et entre autres de retrouver quelques amis avec qui on a pris l'habitude de se voir à Lyon. Nous avons des dizaines de commémorations de la révolution russe de 1917. Je me suis lancé dans l'écriture de quelques articles, dont un qui s'intitule « Pourquoi la Russie ne peut pas commémorer 1917 ?» Bien sûr, il y a des événements, mais dans l'ensemble, disons, elle n'arrive pas à commémorer 1917. Et au fond, je voudrais élargir cette idée. On n'est jamais arrivé à définir synthétiquement 1917, février plus octobre. En 1928, Alexis Tolstoï, Alexis Nikolaevitch Tolstoï, à compte d'auteur, publie à Paris, à l'imprimerie Bérissignac, une comédie en quatre actes, La fabrique de la jeunesse. L'imprimerie Bérissignac est entrée dans l'histoire. C'est là que l'archipel du Goulag va être imprimé de façon clandestine. Et vous avez actuellement à Imca Press, rue de la Montagne Sainte-Geneviève, les tiroirs à caractère cyrillique qui ont servi pour imprimer ce livre qui, malgré tout, est un des livres majeurs du XXe siècle, l'archipel du Goulag. Alexis Nikolaevitch était déjà rentré au pays soviétique. Il ne s'y sent pas encore bien en 1928. C'est l'année où il publie le roman 1918, qui est la suite du roman Les Sœurs, Siostru, et qui fait partie de cette trilogie qu'il a imaginée d'après une légende médiévale, Khajdinye Pamukam, le chemin des tourments, où la Vierge Marie demande à Dieu le Père quelques jours de répit pour les condamner dans l'enfer. Un tome 1918, qui a été véritablement éreinté par la critique soviétique du moment, et en particulier les écrivains prolétariens qui faisaient l'essentiel de l'opinion littéraire à l'époque, la critique de la RAP. Et il lui faudra refaire ce tome. Il le refera. Parce qu'Alexis Nikolaevitch fait et refait en fonction de ce qu'on a appelé dans le parti la ligne générale. La ligne générale de l'histoire. Et ce sera le pain, chleb. La comédie, elle se passe non pas en émigration, mais il y a un émigré qui joue un rôle dans la Moscou de la NEP avec un inventeur qui a trouvé la machine qui rajeunit par secousse électrique. Les femmes, en particulier deux femmes actrices, et un mari qui est devenu une ombre en croyant avoir troqué une vieille femme pour une jeune femme. Ce théâtre d'ombre rappelle le roman de Nabokov, son premier Masha, par exemple, où on voit le théâtre d'ombre parmi les émigrés à Berlin. Qui, pour quelques pfennigs, figureront dans des scènes de masse. Tous, dans la comédie, rêvent d'Amérique, rêvent d'argent par valise entière, rêvent de Hollywood. Et l'actrice qui est tombée... donne une interview pour dire qu'elle est Hollywood, mais qu'elle veut s'y rendre. Cette fabrique de jeunesse, drôle et tragicomique, nous indique comment l'auteur du Chemin des tourments a interprété le soubresaut subi par la Russie en 1918, ce choc électrique qui l'avait rajeuni et américanisé. Il ne faut pas oublier que ce point de vue-là a longtemps subsisté dans la Russie, y compris dans les années 30, l'américanisation de la nouvelle Russie soviétique, la nouvelle Amérique, selon Alexandre Bloch. Les sœurs avaient paru dans la revue Les Annales contemporaines, Savremennye Zapiski, fondée par Aksentiev, Bounakov, Marc Vichniak, c'est-à-dire un groupe de SR, socialistes révolutionnaires, décidé à donner à l'émigration russe la leur, la libérale, la socialiste, l'anti-bolchevique, 3 ans après la Révolution, un moyen de s'exprimer publiquement dans tous les domaines politiques, littéraires, historiques, sociologiques, économiques même, avec également des publications de romans, Alexis Tolstoï, Aldanov, Bounine, Nabokov et bien d'autres, de poésie, Krandievskaya, la femme de Alexis Tolstoï, Tsvetaeva, Khodasyevitch et bien d'autres. Les limites qu'il posait étaient à peu près les suivantes. On donne la parole à ceux qui acceptent la Russie démocratique, à ceux qui acceptent février 1917 et qui refusent octobre 1917. Bien sûr, l'interprétation de 1917 va occuper une part, disons, très importante et créer des tensions vives que décrit plus tard Marc Vichniak dans son livre de mémoire sur la revue. Et ces tensions ont eu lieu, par exemple, entre Vichniak, Aksentiev et Fyodor Stipoun, qui tout au long des années 1920 va en somme évoluer vers une sorte d'exégèse mystique d'octobre. Vichniak écrit d'ailleurs « La démocratie dans la conscience de l'émigration n'était pas en honneur. On la considérait comme une valeur pour le moins discutable. » Autrement dit, son échec en Russie devait être pris en compte. Et Vichniak rappelait les paroles de Merejkovski écrites en 1905, au moment de la première révolution russe, paroles, il faut dire, assez prophétiques. Inévitablement, l'Europe, et pas seulement l'un ou l'autre des peuples qui composent l'Europe, se heurtera à la révolution russe, c'est-à-dire à l'anarchie russe. Bon, le chemin des tourments avait déjà eu ses 7 premiers chapitres publiés dans la revue La Russie future, Gridushche Rossiya, qui était financé par un mécène industriel, mais qui, au deuxième numéro, abandonne cette aventure éditoriale. Vichniak et les autres initiateurs des Annales de la Patrie proposèrent alors à l'auteur, qu'on appelait, qui signait à l'époque le comte Alexis Tolstoï, Graf Alexis Tolstoï, de tout reprendre et de payer les honoraires pour l'ensemble, même pour les chapitres déjà publiés. Bon, le comte Alexis Nikolaevitch aimait bien les honoraires tout au long de sa vie, par conséquent, il accepte. Dans quelle mesure il est dans les limites exactes idéologique que se fixent les fondateurs, c'est difficile à dire. Mais les sœurs paraissent donc dans les premiers numéros d'une revue que l'on peut dire, comme on disait à l'époque, février-riste, qui est partisane de maintenir et de sauver les valeurs qui ont fait février 1917. On vient de nous rappeler que il y a quand même eu des victimes physiques en février 17, alors qu'en octobre, il n'y en a pas eu, mais le jour du changement de régime, il n'y en a pas eu. C'est venu plus tard. Les sœurs paraissent donc dans une revue févriériste et juste après la chute de la Crimée de Wrangel, ce qui veut dire qu'il ne reste plus grand espoir, que le régime d'octobre de Lénine est à peu près installé. Ça vient, comme dit Sergueï Makovski, que j'ai bien connu, dans un poème qui est publié dans le même premier numéro, ça vient après une année de colère, de larmes et de torture. Le 21 janvier 1921, s'acheva à Paris la réunion du Conseil des membres de l'Assemblée constituante, reprise de l'Assemblée constituante, dissoute manu militari par Lénine. Et à cette Assemblée constituante de Paris, Kerensky prit longuement la parole. Cette unité de vue, cette unité dans les choix tactiques, furent le fruit du retour de la conscience de la Russie au grand legs de la Révolution de mars, déclara Kerensky. Selon le nouveau calendrier, la plupart des orateurs parlent de Révolution de mars et pas de février. Martovska révolution. Soit dit au passage, étudiant à St. Anthony's College à Oxford en 1957, je fus très surpris quand on nous annonça une conférence de M. Kerensky. Je pensais qu'il avait disparu derrière l'horizon. Eh bien non, il était là, il nous a fait une très belle conférence pour nous indiquer comment lui comprenait 1917. Et Marc Ferraud, dans ses papiers qu'il vient d'écrire pour Le Monde, assistait à une autre conférence de Kerensky à Oxford et dit lui aussi son étonnement, parce qu'en somme, la propagande soviétique qui était suivie par tout le manuel français européen, parce qu'on faisait beaucoup de copier-coller sur les manuels soviétiques, nous disait que, bon, après sa fuite déguisée en bonne femme, Kerensky avait disparu de l'histoire. Ce qui veut dire la Révolution de mars est le pilier refondateur de la Russie future, et la Russie future est ici, dans cette Russie qui n'est pas en exil, mais qui est en mission, ni vizgna, ni avzadagne, expression qu'emploiera le poète Otsoup dans son poème « Journal en vers », qu'emploiera Merejkovski, ce qui impliquait aussi que février-mars n'était pas vaincu et que les usurpateurs n'étaient pas reconnus et ne le seraient pas. Jamais de reconnaissance, c'est le mot d'ordre. Seul Martov faiblit chez les SR, mais il est considéré comme un droitier. Et il plaide pour une semi-reconnaissance de la bolchevisia, comme il dit. Les rubriques Patriotica de Avksieniev ou Au pays natal de Marc Vichniac développe de numéro en numéro cette position, qu'on peut dire démocratique, fédéraliste, ironique à l'égard de l'Occident, qui pense que le bolchevisme est bon pour la Russie et mauvais pour l'Occident. Autrement dit, sous la rubrique « bon pour l'Orient ». Quel tableau nous donne le comte Alexis Nikolaevitch Tolstoï ? Dans les sœurs. Alors, je fais une synthèse en quelques minutes. Un tableau ironique, mélancolique, qui ne lui ressemble pas, parce que lui-même n'est pas un mélancolique, d'un bout à l'autre de toute son œuvre. Tableau de capitale où les cabarets, les mœurs dévergondées, les futuristes et autres déconstructeurs de la Russie classique composent un décor de fond sur lequel se déroule une histoire où ils n'ont absolument aucune prise, la guerre, la famine, l'assassinat de Raspoutine. Les acteurs humains n'y jouent qu'un tout petit rôle, prétentieux, comique. Et même croyant dominer les événements, ils ne font que s'abandonner aux instincts, des instincts assez bestiaux. En 1914, Tolstoï, correspondant de guerre, avait célébré ce qu'il appelait la purification de la guerre. En 1921, il s'auto-caricature sous le personnage du journaliste Arnoldov et il caricature, tout le monde l'a noté dès la parution, Alexandre Bloch sous les traits de Bessonov. Les bolcheviks figurent dans les Sœurs, première rédaction. Mais ils figurent, ils participent à cette atmosphère générale de décadence. Ils forment une sorte de secte mystique de marxo-chrétiens, nous dit l'étudiant Gvozdiov. Les pages du début du chapitre 7 disparaîtront dans les rééditions soviétiques, ainsi que quelques autres passages plus courts, eux aussi censurés par l'auteur lui-même, qui pense que ça n'est plus valable pour le public soviétique. Les bolcheviks, dans cette première rédaction, sont comme les chrétiens, c'est-à-dire d'habiles imposteurs qui exploitent la misère humaine. Tolstoï change les jalons, Smenavir. Il ne va pas vraiment à Canossa, selon l'expression de l'inspirateur principal du changement des jalons, l'historien Oustriaov. Non, il ne va pas à Canossa parce que, tout simplement, il n'a pas de conviction telle qu'il l'est à aller à Canossa. Et il n'avait pas pris une posture politique suffisamment nette à Berlin quand il avait publié Les Sœurs. Il rentre en Sovétie, il met des années à y trouver ses marques. Quelle place il peut y trouver ? Il est attaqué, il est moqué par les écrivains prolétaires. Mais Maïakovski aussi est moqué. Et ça conduira Maïakovski, le poète de « C'est bien, хорошо », au suicide. Pas question de suicide dans la vie d'Alexis Nikolaevitch. Le comte rouge qui entre dans les faveurs du maître Staline à partir d'un certain moment et qui, là, se sent bien. La seconde partie de la trilogie n'est pas satisfaisante parce qu'il ne tourne pas suffisamment en ridicule les vaincus, c'est-à-dire les Blancs. Et il ne les glorifie pas, comme fait Mikhail Bulgakov dans « La garde blanche », ce qui lui vaut l'interdiction de la seconde partie. Et en même temps, ce qui plaît au camarade Staline lorsqu'il envoie la version théâtrale, parce que si nous avons vaincu des gens comme ça, c'est que nous sommes encore mieux qu'eux. Il montre l'ébullition du peuple, l'orage populaire, le pillage, l'anarchie, les meurtres, un petit peu comme Pignac dans « L'année nue ». Et dans la réédition de 1918, il s'auto-censure encore, ce qui fait qu'il y a une auto-censure d'Alexis Tolstoï quand il raconte la révolution russe à l'intérieur même des ouvrages écrits en Union soviétique et publiés en Union soviétique. Il avait affirmé, en parlant des officiers blancs, « La constance et le courage de ces hommes auraient pu être utilisés pour de meilleurs buts que faire la guerre à leur propre peuple. » Non, c'est encore trop, il va sabrer cette expression. Il faut encore corriger. Et ce sera la troisième partie qui célèbre la victoire de Staline à Tsaritsyn, événement capital qui, dit le comte camarade Tolstoï, lui avait échappé quand il écrivait les deux premiers tomes. Il lui est d'autant plus facile de célébrer le Verdun russe, c'est-à-dire Tsaritsyn et la victoire de Staline, envoyé provisoirement par Lénine et qui reste, contrairement aux instructions de Lénine, de façon à forcer la victoire. Il célèbre d'autant plus, et qui n'obéit pas au rappel de Trotsky, qui est à la tête de l'armée rouge, c'est d'autant plus facile que Trotsky, pour lui, n'est strictement rien, et que lorsqu'il s'agira de dénoncer Trotsky en 1937, il le fera avec un enthousiasme parfait, étant donné qu'il n'a jamais été tenté par le trotskisme. Du temps de la guerre civile, Alexis Tolstoï était du côté des Blancs. Il n'a donc aucune scrupule plus tard à traîner Trotsky dans la boue. Mais nous avons glissé de l'émigration au grand procès de 37. Et ce glissement fut une tentation de tous face au retour de la Russie à un autocratisme bien plus despotique que le précédent, fort, qui pulvérise tous les diagnostics des février-istes des années 1920-1928 et en particulier de l'équipe des Annales de la Patrie. Le bolchevisme n'est pas un phénomène révolutionnaire, il est contre-révolutionnaire, écrivait Vichniac en 1922 dans le numéro 5 des Annales. Peut-être, il a le droit d'avoir cette interprétation, mais cette interprétation va complètement dans la poubelle de l'histoire. Il faut déchanter. Et l'Occident reconnaît les bolcheviks, traite avec eux à Gênes, ouvre des ambassades. En Russie, il y a des émigrés de l'intérieur, bien sûr. Mikhaïl Prichvin, par exemple, qui écrit dans son journal le 22 octobre 1918 « Je vis comme une souris dans le souterrain. C'est là que je perçois les grands incendies, mais la maison tient debout. » La souris dans le souterrain, cela devient, dans l'autre émigration, la vraie, le sort de beaucoup de quidam qui nous sont représentés dans la prose émigrée par Tefi, Bounine, Don Aminado, les expériences de la souris qui habite rue Boileau ou à Clamart ou dans une autre banlieue. Parce qu'enfin, il faut vivre. Là, si vous voulez, le stalinisme semble alors installé à jamais. Et le stalinisme, ce n'est ni le février-rysme, bien entendu, ni l'octobrisme pur. C'est encore autre chose. Dans les retours, il y a celui de Gorki, accueilli par les ricanements des prolétariens, qui n'ont pas encore compris, mais qui vont comprendre que de Karl Marx, il ne reste véritablement que la statue. Prichvin écrit le 14 mai 1931 « Aujourd'hui, Gorki est arrivé. On l'accueille comme un tsar. Dans la Pravda, son portrait avec Staline. C'est tout dire. » Même en 1937, où en un certain sens, les deux Russies, la stalinienne et celle qui a trouvé refuge à Paris ou Prague, ou Sofia, fit presque à des réflexes parallèles à ceux de la Russie stalinienne. Et je vous en donne un exemple qui est le centenaire de la mort d'Alexandre Pouchkine. L'émigration pensait qu'il leur appartenait, Pouchkine, qu'ils étaient les seuls à pouvoir célébrer son centenaire. Eh bien, il se trompe, parce que Staline a décidé 2 ans à l'avance que ce serait une des grandes célébrations du régime. Ça devient une des grandes célébrations du régime, avec des portraits de Pouchkine immenses, 3 mètres sur 4, qui défilent dans les rues à Moscou, devant les loges où il y a Molotov, Staline et les autres. Et on entend Bezymensky déclamer. « Entends-tu, Pouchkine, l'ordre de tirer? Vois-tu les bûchers et leurs rideaux de feu? Là-bas, on vise les Pouchkines, ce sont les Adolphe Nicolas qui dirigent leurs mains de sang. Ce sont les fascistes Dantès. » Alors, vous voyez, Dantès est devenu Adolphe Nicolas. Pouchkine entendait même beaucoup plus près les ordres de tirer, puisque la grande campagne contre les trotskistes et les droitiers se développe exactement la semaine qui suit les cérémonies de Pouchkine. L'Institut Saint-Serge à Paris, lui, il organise une soirée pour célébrer le centenaire de la mort du poète. Il y a deux intervenants, le père Serge Bourgakov et Iline. Le père Serge ne fait pas allusion à la sacralisation stalinienne de Pouchkine, qui est déjà en route, mais il souligne d'une part le sens de la liberté chez Pouchkine et l'absence de toute peur, et d'autre part l'évolution sui generis de Pouchkine vers la foi chrétienne. Et il y a aussi Kartachov qui écrit un texte où il fait mention expresse de la sacralisation à Moscou. On ne saurait ni contrefaire Pouchkine, ni tromper le cœur du peuple, car pour Kartachov et l'émigration, Pouchkine est plus que ses textes. Il est, je cite Kartachov, l'incarnation de la grandeur de l'âme russe. Et il y a quelque chose de hegélien dans cette formule, comme l'esprit du monde. Vous avez l'esprit de la Russie, qui est beaucoup plus que la somme des textes, vers et prose de Pouchkine. Mais au fond, Staline à Moscou l'entendait bien ainsi. Et Kartachov a beau déclarer « Le masque communiste se détache déjà du visage aimé comme une vieille écaille qui a fait son temps, tandis que lui, Pouchkine, le tsarévitch merveilleux, le fidèle fiancé de l'âme du peuple, attend les bras ouverts. » Au fait, Alexis Tolstoï s'est très peu exprimé pour le centenaire de la mort de Pouchkine. Il faut attendre l'année suivante pour qu'il écrive « Pouchkine nous a montré le chemin puisque la langue, pour que la langue russe devienne la langue du monde, la langue de toute l'humanité, de même que les formes créées par notre peuple sont devenues le modèle et le bien commun de toute l'humanité. » J'ai choisi cet épisode du centenaire de Pouchkine à mi-chemin entre Tolstoï et Solzhenitsyn, parce que c'est un signal pour nous montrer comment on partage, se dispute, qu'est-ce que la Russie. L'incipit d'août 14 est déjà écrit en 1937. C'est-à-dire que le jeune Alexandre Solzhenitsyn, qui a 19 ans, a déjà imaginé un roman qu'il désigne par le sigle R17, Révolution 17, qui veut reprendre l'idée du chemin des tourments, de faire une synthèse du chemin des tourments de la Russie. Ce sont les pages sur l'anéantissement de la deuxième armée russe dans les forêts de Prusse et le suicide de son chef, le général Samsonov, qui est désigné comme un agneau, agnets, sacrificiel de cette poudre. Pas plus que pour le roman de Tolstoï, je ne vais vous le résumer, d'autant plus qu'il est encore beaucoup plus long, mais en voici les très, très grandes lignes. Pas en 1937, mais plus tard, évidemment, Solzhenitsyn lira les articles de Piotr Struve comparant 1917 au temps des troubles, la smuta, qu'on pourrait aussi dire le temps de la sédition, smuta. Struve avait repris cette comparaison, partagée par beaucoup à l'époque, et au fond jusqu'à aujourd'hui, du côté des Blancs. Contrairement au schéma des libéraux, voyant dans la révolution russe un replay de 1789, et la suite de 1789 en France, c'est-à-dire la fin de la révolution, une fin qui va par le directoire, le premier consulat, l'Empire des Français, jusqu'à la Restauration, c'est-à-dire un processus d'apaisement. avec l'épisode Bonaparte, bien entendu. Le général Denikin, dans ses mémoires, qui s'intitule Ocherki Ruskoy Smouty, étude sur la sédition russe ou le temps des troubles russes, ont joué un grand rôle. Mais le général Denikin est entièrement antifévriériste. C'est-à-dire que tout le mal vient de ceux qui ont déclenché, sans s'en rendre compte, la révolution russe en faisant février. Struve, dans ses articles, oppose une autre vision, un deuxième temps des troubles, comme celui qui suivit la mort de Boris Godounov et l'élection du jeune tsar Mikhail Romanov, était inévitable. Tous avaient en tête le grand livre de l'historien, l'académicien Platonov, Étude sur l'histoire des troubles dans l'État de Moscou, essai d'analyse de la structure sociale et des rapports entre les États sociaux pendant les troubles. C'est un énorme livre paru en 1910 auquel beaucoup se réfèrent. Struve voit dans la révolution russe un suicide collectif de la nation russe. Tandis qu'un autre penseur libéral, Miliukov, voit la possibilité d'une évolution. Pour l'ancien marxiste Struve, la société russe s'est suicidée. Pour le libéral Miliukov, qui a quand même flirté avec la gauche, un Bonaparte russe est possible, c'est-à-dire qui apporterait ce processus de achèvement de la révolution. Solzhenitsyn s'est nourri pour forger l'immense roue rouge d'un nombre considérable de lectures en URSS, au Hoover Institute, à Stanford. Il s'est nourri dans les centaines de mémoires inédits qu'il a reçues à Cavendish après son appel à l'émigration russe « Envoyez-moi vos mémoires éditées ou inédites ». Mais deux textes ont particulièrement joué. C'est celui de 1900, le recueil des jalons de 1909, dirigé par Struve avec la collaboration de Berdiaev, de Frank, Isgoev, Gershenzon, et que Lénine a baptisé « Encyclopédie du libéralisme renégat ». Et il est exact que la majorité des auteurs de ces jalons venaient du marxisme. Là est la thèse centrale, c'est que l'intelligentsia russe refuse et a toujours refusé depuis qu'elle est née de remplir son rôle, donc élaborer des idées utiles à la nation russe, au peuple russe et au pouvoir russe, et qu'elle projette sur le pays un avenir de catastrophe. Et que parallèlement, la paysannerie, affaiblie par un si long servage esclavage, n'est pas capable de jouer le moindre rôle. Et que reste-t-il entre les deux, la bureaucratie russe ? Struve reprit une partie des auteurs pour le recueil De Profondis de 1918. Ces auteurs condamnent une fois de plus l'intelligentsia russe. Important le socialisme européen, elle en a fait une utopie russe dénuée de tout fondement concret. Un égalitarisme menant à un despotisme de Chigaliov dans les romans de Dostoïevski et de Lénine dans la réalité. Non seulement la thèse des jalons imprègne la lecture que fait Solzhenitsyn, mais encore, il fait figurer un auteur des jalons sous le nom de Varsonofiev, et le sobriquet de Zvistachot, qui a participé au recueil des Profondis, le recueil des... De plus, Solzhenitsyn va ensuite, avec d'autres comme Yevgeny Barabanov, imaginer un troisième recueil. Après les jalons, après des profondis, ce sera Ispod Grup, c'est-à-dire des voies sorties du rocher qui les écrase, des rochers qui les écrasent. Et on y retrouve la condamnation de l'intelligentsia de la foi aveugle au progrès. L'article de Solzhenitsyn affuble cette intelligentsia d'un sobriquet de sa facture, Obrazovanchina, et comme j'ai traduit ce recueil en français, c'était assez difficile. Obrazovanchina, il fallait que ce soit péjoratif, en un seul mot, difficile à trouver. Bon, moi j'ai traduit l'attribut instruite. Les 8 mois de liberté démocratique de 1917 ont mené à la catastrophe, constate l'auteur de Ispod Grup. N'aurait-il pas mieux valu évoluer d'un régime autoritaire à un autre régime autoritaire? Bon, mais là, on est dans si le nez de Cléopâtre. On ne peut pas changer l'histoire. Il y a des faits. La chaîne des trois jalons de 1909, 1918, 1974 se résume, selon moi, en un mot que je prends chez Piotr Struve, l'apostasie. Une apostasie qui engendre les poisons de 17 après avoir infiltré la paysanne russe dès 1861 et surtout les années 1870, le Rajdiniv Narod, l'allée au peuple. Solzhenitsyn n'est pas un exilé, est un proscrit. Il tient à la différence, mais avec le temps, on peut dire que cette différence quand même s'estompe. Et quand il débarque à Zurich en 1974, chassé du RSS, sa première passion, c'est de retrouver les traces de Lénine, d'Oulianov Lénine. Car il est tout à fait clair que cet adversaire numéro 1 lui est sympathique. Les exilés comptent les exilés ne comptent pas les jours entiers qu'ils passent à se battre les flancs, alors qu'une seule heure perdue rendait Lénine malade. Alors voilà, l'ardeur au travail de ce Blanqui russe qui étudie la façon dont on peut organiser la sédition. Et Blanqui a été le principal penseur de la sédition en 1848, plaît à Solzhenitsyn. Pourquoi? Parce que lui, au moins, il sait où il va, tandis que les févriéristes ne le savent pas du tout. Et l'exilé Solzhenitsyn se sent proche de l'exilé Oulianov. Pas de temps à perdre. De l'exil, on voit mieux la Russie. La Russie, mon cher, il faut la regarder de très loin, très très loin, quasiment depuis la Lune, déclare un des ingénieurs, Obodovsky, qui ont la sympathie de Solzhenitsyn et qui reprennent la philosophie de Lev Tikhomirov, qui est quelqu'un que a beaucoup lu Solzhenitsyn, « Pourquoi j'ai cessé d'être révolutionnaire ?» L'émigration, c'est au Goulag que Solzhenitsyn l'a rencontré, comme c'est au Goulag qu'il a rencontré le socialisme non bolchevique, qu'on pouvait avoir un socialisme différent de Lénine, comme il y a rencontré la poésie militante. En somme, le Goulag fut son université. Et dans la première cellule, il nous raconte sa rencontre avec Fastenko et Susi, qui est l'Estonien, qui sont deux bons socialistes, de vrais socialistes. Et là, je le cite. « Depuis l'enfance, j'ai la certitude venue je ne sais d'où que mon but est l'histoire de la révolution russe. Et pour comprendre la révolution, je n'ai besoin de rien d'autre que du marxisme. Et voici que le destin m'a réuni avec Susi, le socialiste estonien, qui, lui, a évolué dans une toute autre atmosphère. À présent, il me raconte avec entrain ce qui fait toute sa vie, l'Estonie et la démocratie. Sans compter la rencontre avec Yuri Ye, qui a servi les Allemands. Je lui disais que notre révolution avait été merveilleuse et juste, que ce qui était effrayant, c'était la déformation subie en 1929. C'est le jeune Zec, Alexandre Solzhenitsyn, qui dit ça à Suzy et à Yuri Ye. Il est marxiste, et il est marxiste romantique. Il me regardait avec pitié. Et il faudra quelques années encore à Solzhenitsyn pour comprendre pourquoi il le regarde avec pitié. C'est-à-dire, tu n'y comprends rien parce que tu es imprégné de la propagande. Parmi les compagnons de cellule, il y a des émigrés blancs. Et pour les yeux d'un jeune soviétique, c'était des spectres d'un passé évanoui. Ils avaient été plus cruellement dispersés que les tribus d'Israël. C'était des pianistes de mauvais restaurants, des laquais, des mendiants. Et puis brusquement, en voilà, qui ont été des résistants français, qui ont assiégé l'ambassade d'URSS pour rentrer dans la patrie sur laquelle ils se faisaient tant d'illusions. Et le jeune Solzhenitsyn se fait une idée de ce qu'est l'émigration et de ce qu'a été la révolution pour eux, quelque chose de changeant également. Un d'entre eux fait découvrir à son jeune camarade soviétique, squelettique comme lui, car tous ont faim, cette rencontre me révéla que le reflux de la guerre civile d'une large fraction des forces spirituelles de la nation avait écarté de nous un large et un important rameau de la culture russe. Pour finir, c'est en exil à Cavendish, dans sa propriété des Cinq Ruisseaux, que Solzhenitsyn va redémarrer et achever l'immense écriture de la Roue Rouge, cette énorme masse événementielle que Solzhenitsyn a amassée en Russie au goulag à Stanford et qui maintenant s'aimante. Prend une signification. Je cite toujours dans les mémoires d'exil de Solzhenitsyn. À mesure que j'avançais, un tournant auquel je ne m'attendais pas s'opérait dans mon esprit. Je saute les étapes, bien entendu. L'auteur, palpant, jaugeant, jugeant l'événement immense appelé R-17 dans ses brouillons, depuis son refuge américain, se demande en écrivant mars 17, février a-t-il été utile à la Russie? Février était-il inévitable? Octobre découlait-il inéluctablement de février? Et il nous livre les étapes de son retournement, car il s'agit d'un retournement. Il découvre avec stupéfaction et répugnance, je cite, la bassesse, l'hypocrisie, l'unanimité servile, l'écrasement de ceux qui pensaient autrement, lesquels régnaient dès les premières journées de février. Une anarchie sauvage apparaît, des assassinats barbares, et dans mars 17, au chapitre 418, il nous montre, et c'est une scène véritablement très réussie en montage cinématographique, la mort de l'amiral Népinin et de ses officiers qui sont emmenés par des soldats sous insurgés, une horde d'une soixantaine, et qui vont finir par lui tirer dans le dos et le piétiner. Oh, ceux-là ne sauraient vivre ensemble. Comment ces deux races-là pourraient-elles, qui vont dans le même plan cinématographique, qui parle? Une sorte de voix off? Celle du narrateur, celle du cinéaste, celle de l'historien? Deux races, au lieu d'un même peuple russe, on croirait lire Berdiaev et son éloge de l'inégalité. Dans un instant, l'amiral va être poignardé, piétiné. Dans un an, les deux races vont se livrer une guerre civile d'une cruauté sans précédent. Et Solzhenitsyn se livre à une douloureuse réévaluation de 1917. Je cite. « Comment donc étais-je resté 40 ans sans voir cela? Comment m'étais-je laissé tromper par le séduisant et brouillard de février ?» Alors, première explication à cette séduction, ou première justification, si vous voulez. L'opposant qu'il était ne pouvait pas croire que tout le mal que les bolcheviques disaient eux-mêmes de février était vrai, puisque ça sortait de la bouche des bolcheviques. Rappelez-vous que Nabokov a expliqué, moi en politique, je ne me fatigue pas, j'écoute ce que disent les bolcheviques et je prends la position diamétralement inverse. Et donc, ne pouvait pas non plus accorder foi aux mémoires des Choulguines, qu'il a lues, comme toute la Russie dans les années 20, et qu'il a lu plus tard les mémoires des Rodzienko, Chidlovski, Nabokov, père, Tchernov, Miliukov et bien d'autres. Seconde explication, dans sa lutte contre le régime, Solzhenitsyn a toujours été soutenu par des dissidents ou des politiciens qui, à ses yeux, va-t-il nous dire, sont liés à février. C'est-à-dire dont la grande référence, c'est février 17, avec ses antécédents, qui sont essentiellement 1830 et 1848, les grandes révolutions européennes, démocratiques et libérales. Troisième explication, n'allait-il pas, ce faisant, trahir son petit Ivan Denisovitch, c'est-à-dire sa lutte contre le goulag pour rendre voix et justice aux victimes innombrables des bolcheviques. Ce petit héros paysan, le zec Ivan Denisovitch, qui, vous vous rappelez, dans, et c'est un des traits merveilleux de l'archipel du Goulag, lui sert de Virgile comme Virgile sert à Dante pour la descente aux enfers. Car ses alliés dans ce combat ont été les André Sakharov et les autres défenseurs des droits de l'homme, c'est-à-dire des février-ristes. Solzhenitsyn a compris que le mot d'ordre essentiel de février-mars 17 était la liberté. Mais il en voit les désordres, l'hubris, les absurdités. Il donne des centaines et des centaines d'exemples dans ses citations, dans ses flashs, par exemple. Les religieuses défilent en brandissant une bannière « Vive l'international ». Ou encore, sur la Loubianka, des étudiants avec le slogan « On est en guerre, vive l'Allemagne ». Et voilà que dans sa cabane de Cavendish, qu'il a construite de ses mains, comme à Rajestvo, et où il travaille loin de la maison, et où deux loups sont venus une nuit le guetter, c'est une page très, très belle de ses notes ou carnets d'exil, voilà qu'il se rend à l'évidence. Je cite, « Enfin, elle était devant moi, la révolution. Depuis ma jeunesse, j'étais prêt pour ce travail et attiré par lui. Mais elle ne me céda pas facilement. Le jaillissement reçu en pleine figure des événements de février-mars m'avait abasourdi. Et la rédaction en Amérique, dans son refuge des Cinq Ruisseaux, est une expérience égale à celle du Goulag. Une expérience majeure. Mars 17 va occuper 4 tomes, de chacun 800 à 900 pages. Tout l'édifice, je cite, grandissait maintenant sur mes épaules. Mais c'était plutôt moi qui grandissais en travaillant sur lui. Mars élevait toute mon attention et prenait toute l'implication de mon être. Cette exaltation extraordinaire vient du fait qu'il parvient alors à ce qu'on peut appeler le moteur nucléaire de l'histoire. Il a la nette sensation d'être le premier à y parvenir. Bien entendu, ni Alexis Tolstoï, ni le général Denikin avec son histoire de la sédition russe, et encore moins le professeur Pavel Miliukov avec son histoire écrite en collaboration avec deux collègues de la Sorbonne, Seniobos et Eisenman, ne peuvent y prétendre. Solzhenitsyn, au terme d'un effort gigantesque, découvre en somme qu'octobre découle de février et qu'en ce sens, les manuels soviétiques avaient raison. Je cite. Quel intérêt présentait février, simple passage ? Eh bien, l'intérêt que tout s'y décide, la décomposition du pays, l'aveuglement de la pensée libérale, de tous les nouveaux décembristes. En n'oublions pas que nouveau décembriste, c'est un terme qu'il s'est adjugé lui-même. Et dans sa dramaturgie, il y a les nouveaux décembristes. Dans son long poème d'Arojenka, il y a les nouveaux décembristes. Et Merezhkovski, avec Kipius, qui regarde les événements en face du palais de Tauride, est en train d'écrire la pièce sur le 14 octobre, sur les décembristes. Cette même Zinaïda Gepius, amie de Kerensky, que l'on voit souvent venir chez eux quand il a quitté le palais de Tauride, avait griffonné dans son journal, je cite, « Enfin, ça y est, le destin nous a accordé ce que les décembristes n'avaient pas pu réussir. Et cette fois, c'est une colonne de feu qui a jailli et qui a embrasé toute la Russie. » Nous attendions, angoissés, un miracle, et le miracle s'est produit. Le miracle, c'est février. Ils ont déchanté. Merezhkovski et sa femme se retrouvent ensuite du côté du maréchal Pilsudski à Varsovie, c'est-à-dire chez l'ennemi. Voilà l'aveuglement, voilà l'enfermement de l'intelligentsia dans un schéma immuable pour Solzhenitsyn. Maintenant, après son retournement, qui va du 14 décembre 1825, place du Sénat, au 25 octobre 1918, putsch de Lénine. Dans son essai « Réflexion sur la révolution de février », écrit dans « L'exil de Cavendish », mais réédité à grand tirage dans la Russie du président Poutine, il cherche la racine de l'effondrement moral, et je cite, c'était un élément commun d'emprise d'un puissant champ libéral et même socialiste dans le pays. Alors ce qui est intéressant, c'est que le mot « champ », il l'écrit « polé » en majuscule. P-O-L-I-E en majuscule. Donc, il le personnifie, en quelque sorte. Une monarchie endormie, des libéraux aveugles qui arrachent la couronne avec leurs pattes de devant, alors que déjà leurs pattes arrière et leurs troncs sont arrachés par le monstre qui les suit. Déjà Lénine appliquait la formule de Marx, expropriatio expropriatarum, torum, mais Lénine disait, nous ne parlons pas latin, et en bon russe, ça veut dire grap награблене, ce qu'on pourrait traduire par les pilleurs. Alors en 1927, Marc Vichniac tenta de faire le point, 10 ans après, 10 ans en passé, et il écrit « Ces 10 ans sont l'équivalent de 120 ans. La révolution est une forme barbare de progrès, dit-il en reprenant une formule de Jaurès. Il se moque des exégètes comme Struve, Gershenzon ou Boris Zaïtsev qui attribuent au prince Galitsyn qui n'a pas su faire appliquer en 1730 les conditions imposées à Anne Ioannova, la destruction de l'État russe en 1917. L'absolutisme russe, la lutte de l'intelligentsia contre cet absolutisme, l'absence de tiers États russes, ça c'est la thèse essentiellement de Simeon Frank, le long servage du paysan russe ont abouti à cette année nue, selon Pilniak, mais c'est aussi la tabula rasa dont parle Gershenzon dans la correspondance des deux coins avec son ami, le poète Vyacheslav Ivanov. Mais Vichniak a sa part de rêve. Le projet est le peuple, pardon, et le pouvoir fusionnaire. Il emploie le verbe slitsa. Le peuple prit le pouvoir devint le peuple. 10 ans après. Solzhenitsyn dirait, ben voilà, voilà l'exemple même de l'aveuglement. Mais, ajoute Vishniak, cela advint trop tôt. Autrement dit, Vishniak n'a pas de conclusion, pas de diagnostic. Pas plus d'ailleurs que Savinkov dans sa brochure à la veille de la Nouvelle Révolution qui écrivait à Varsovie « En Russie siffle la tempête, tombent les arbres, une vie nouvelle se crée dans le chaos. En immigration à Paris, des gens vieillis avec des mots vieillis discutent de choses vieillies. » Et croire que ce n'est pas le peuple russe, mais une poignée de communistes qui a jeté hors frontières ces 2 millions de Russes, est paradoxal. Savinkov rentra illégalement, fut pris, fut fusillé par le KGB. Entrant lui aussi le vieux comploteur clandestin dans le royaume des ombres de l'émigration. Pas de conclusion, je crois que c'est la conclusion quand on essaye de regarder l'ensemble de ce qui a été écrit sur 1917. Pas de conclusion parce que les événements si rapides qui ont conduit de 1789 à 1793, 1793 à 1801 en Russie ne sont peut-être pas terminés. Peut-être qu'ils ne sont inachevés. Le sociologue Gefter, qui avait parmi ses élèves le sociologue actuel Pavlovski, qui a publié tout récemment ses conversations avec Gefter, qui sont très intéressantes, s'intitule « Une révolution sans fin ». C'est en tout le moins un sujet de réflexion pour nous tous. Voilà. Merci.